Évangile donc de Marc, chapitre 13. Je vais me permettre de commencer mon introduction, puis la lecture pendant que les verres d'eau circulent. Nous n'allons pas lire d'ailleurs tout le chapitre, uniquement les versets 1 à 27. Tout le chapitre 13 de l'Évangile de Marc s'appelle traditionnellement l'Apocalypse de Marc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression pour un évangile. L'Apocalypse de Marc, il y a l'Apocalypse de Matthieu, l'Apocalypse de Luc également. Jésus est à ce moment-là à Jérusalem et l'enseignement qu'il donne dans ce chapitre précède directement les événements de sa mort et de sa résurrection qui commencent dès le chapitre suivant. Et je vais lire donc ce texte dans la version de la Bible du Semeur. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Regarde, maître, quelle belle pierre! Quel édifice magnifique !» Jésus lui répondit, « Oui, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Tout sera démoli. » Puis il alla s'asseoir sur les pentes du mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il ? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements seront prêts de s'accomplir ? » Là-dessus, Jésus leur dit, « Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas à l'intérieur de sa maison pour emporter quelques biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de détresse, comme on n'en a pas connu depuis que Dieu a créé le monde, et comme jamais plus on en verra de semblables. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ces jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, pour qu'il soit à lui, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christs surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et des grands prodiges au point de tromper, même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai prévenu. Cependant, ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Ce long passage commence avec la remarque d'un disciple Jésus sortait du temple, probablement avec ses disciples, et puis un de ses disciples lui dit, « Mais regarde, maître, quelle belle pierre et quel édifice magnifique !» Et Jésus lui répond, « Il ne restera pas une pierre sur une autre, tout sera démoli. » Ce n'est pas que Jésus n'aime pas l'architecture du temple. D'ailleurs, juste le verset d'après, il est dit qu'il s'assoit sur les pentes du Mont des Oliviers en face du temple, probablement pour contempler cet édifice. Mais il dit que tout cela ne tiendra pas, il ne restera pas une pierre sur une autre, tout sera démoli. Alors même qu'on aurait pu penser que le temple, construit justement en pierre, un matériau solide, était un symbole de stabilité, de permanence, et encore mieux, un signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, Jésus serait-il en train de nier alors l'importance du temple ? C'est vrai que Jésus a déjà parlé aussi du temple de façon symbolique dans les évangiles. Il dit d'ailleurs qu'il va détruire le temple et puis le reconstruire. En 3 jours, il disait cela en parlant de son corps, et c'était donc une façon de parler du temple de façon symbolique. Mais est-ce aussi le cas dans ce passage ? Est-ce que Jésus est en train simplement de répondre que ce que représente le temple, c'est-à-dire l'ancienne alliance, l'alliance de Dieu avec le peuple juif, est voué à disparaître ? Alors, ça serait un enseignement biblique qui est présent largement ailleurs dans l'Écriture, mais l'histoire nous apprend en fait que la réponse de Jésus, « Il ne restera pas pierre sur pierre », est à interpréter littéralement ici, car le temple de Jérusalem a effectivement été détruit. C'était quelques dizaines d'années après ces paroles de Jésus. En l'an 70, un certain Titus, qui deviendra empereur romain, mais qui à ce moment-là est encore général de l'armée romaine, entre dans Jérusalem avec son armée et détruit le temple par le feu. Ce qui pouvait paraître indestructible va bel et bien être détruit 40 ans après ces paroles. Alors, je ne sais pas si les disciples avaient compris tout cela, mais en tout cas, ils posent une question à Jésus. Ils lui disent, mais dis-nous quand cela viendra ? Verset 4, voilà, dis-nous quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements seront prêts de s'accomplir ? Alors Jésus leur répond, et il leur répond assez largement. Sa réponse va du verset 5 jusqu'à la fin du chapitre 13, on n'a même pas tout lu. Donc une réponse de Jésus assez longue. Il annonce même des événements très précis quand il dit « Vous verrez l'abominable profanation » établi dans le lieu où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, etc. Il fait référence là, par cette expression, l'abominable profanation, à un événement du passé que le peuple juif avait vécu de façon extrêmement douloureuse. On connaît la date, en 168 avant Jésus-Christ, un certain Antiochus Épiphane a profané le temple. Il a installé dans le temple une statue de Zeus, et puis a offert un sacrifice de porc sur l'autel du temple. Il a ainsi profané le temple, et c'est ce que les Juifs ont appelé depuis ce moment l'abominable profanation. Jésus reprend ici cette expression pour parler peut-être aussi des sacrifices païens qui seront donnés à l'emplacement du temple détruit en l'an 170 par les Romains sur le lieu même du temple qui avait été incendié. Et puis ensuite, Jésus précise aussi qu'il y aura des Judéens qui s'enfuiront dans les montagnes. Et cela, l'historien Reuzeb nous le rapporte, effectivement. Plusieurs personnes de Jérusalem et de la région ont quitté cette région au moment des émeutes pour aller se réfugier jusqu'en Grèce, en Macédoine. Le verset 9 annonce un temps de persécution dans les tribunaux des Juifs. Cela veut dire que les tribunaux des Juifs fonctionneront encore à ce moment-là, au moment où Jésus parle. Jésus répond donc bien à la question des disciples. Quand est-ce que ces événements arriveront ? Ben, ils arriveront, il ne donne pas de date, bien sûr, mais il répond vraiment et il dit ce qui va se passer à cette époque-là, en l'an 70, quelques dizaines d'années après les paroles de Jésus. Mais Jésus va plus loin encore que cela. Il en profite pour se servir de ces événements terribles qu'il annonce pour parler encore d'autres événements plus lointains encore et eux aussi terribles. Je vous lis juste les versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Manifestement, ces versets ne correspondent pas à ce qui s'est passé en l'an 70. Certains commentateurs y voient alors là des propos de Jésus symboliques. Je préfère y voir encore maintenant une annonce de la fin des temps. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Cela décrit bien le retour physique de Jésus-Christ. Jésus sort donc du cadre de la question de ses disciples pour élargir leur horizon en leur enseignant sur la fin des temps aussi. Si on regarde verset par verset, ce n'est pas évident de savoir quels versets s'appliquent littéralement aux événements de 70 et lesquels ont une portée plus lointaine. Mais c'est comme ça que Jésus procède, comme d'ailleurs beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes qui, dans les oracles de salut, prophétisent la venue du Messie, des fois même la délivrance de l'exil, et puis la venue du Messie, et puis jusqu'à l'avenir éternel. C'est le cas de beaucoup de prophéties bibliques qui s'accomplissent comme cela, en plusieurs temps. Le prophète Michée, par exemple, annonce le retour de l'exil, mais il prophétise sur la croix et sur la nouvelle création, et tout cela d'un verset à l'autre, sans dire « attention, maintenant je prophétise sur un autre temps qui sera bien plus lointain, etc. » C'est une image, c'est l'image un petit peu d'un tapis qui serait enroulé. Vous voyez, un tapis qui serait enroulé. Donc certains endroits du tapis paraissent près les uns des autres. Hein, et puis on pourrait décrire, là vous avez du rouge, puis ensuite du jaune, et puis du vert, etc. Puis vous déroulez ensuite le tapis, puis le rouge, le jaune et le vert apparaissent à des moments bien différents. C'est une image. C'est peut-être ainsi qu'il faut lire ce chapitre 13. Si on y regarde de plus près, effectivement, il n'est pas évident de déterminer vraiment, mot par mot, s'il s'applique aux événements de 70 ou à la fin des temps. Mais au verset 30, juste après notre passage, Jésus dit « Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. » Jésus précise que son enseignement va commencer à se réaliser. Il s'agit donc bien d'un processus qui commence et qui ne se finira que lors du retour de Jésus. Au verset 8, également, un autre indice encore nous dit qu'en effet, on verra se dresser donc une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre et des famines, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Encore une fois, l'idée que quelque chose commence et se finira plus tard. L'image d'ailleurs de cette femme enceinte qui accouche est utilisée à plusieurs reprises dans la Bible. Dans le prophète Michée, Michée l'utilise pour parler de l'exil en Babylonie, qui est une épreuve difficile et qui sera suivie d'une grande joie, d'une délivrance, le retour de l'exil. Le jugement précède le salut, comme dans un accouchement où les souffrances sont suivies d'une grande joie. En Romains 8, verset 22, un verset que nous avons lu tout à l'heure, nous apprenons que la création entière souffre comme dans les douleurs de l'enfantement, l'enfantement d'un monde nouveau, d'une nouvelle création. Et cela prend du temps, cela s'accomplit en plusieurs temps. C'est dans un moment d'ailleurs qui est plutôt sombre et difficile que ce nouveau monde sera enfanté. En ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Il s'agit du fameux jour de l'Éternel, dont nous parlent déjà les prophètes. Ce sera un jour de salut, certes, mais aussi un jour de jugement. Personne n'échappera au jugement divin, si ce n'est, en tout cas à la condamnation, si ce n'est les élus, ce que Dieu a choisi, nous dit le texte. Et ce que Dieu a choisi, par la grâce de Dieu, ne s'égareront pas. en écoutant les faux prophètes, les faux Christs, parce qu'ils sont simplement prévenus. Ils sont prévenus par cette parole. Jésus dit, vous donc faites attention, je vous ai prévenu. Les élus, ceux que Dieu a choisis, tiendront bon malgré toutes les épreuves, même s'ils perdent tout. Et il est effectivement question de tout perdre dans ce passage. Perdre la paix, car il y aura des guerres. Perdre la sécurité matérielle, car il y aura des tremblements de terre et des famines. Perdre l'honneur, car il y aura des accusations injustes et des coups de fouet. Perdre l'amour de nos proches, car il y aura de la haine dans les familles. Mais alors, avec un tel tableau, à quoi peut-on nous accrocher? Quand tout s'en va, ou qu'on a l'impression que tout s'en va dans notre vie, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste quand tout s'en va? Je vais vous raconter une petite histoire, qui est une parabole. Il était une fois, dans un pays lointain, un riche commerçant qui avait 4 femmes. La 4e femme, c'est celle qu'il aimait le plus. Il l'ornait avec de luxueuses robes et la traitait avec délicatesse. Il prenait grand soin d'elle et ne lui offrait que le meilleur. La 3e femme, elle aussi, il l'aimait beaucoup. Il était très fier d'elle et voulait toujours la mettre en valeur auprès de ses amis. Cependant, le commerçant craignait toujours le fait qu'elle puisse partir avec un autre homme. Il aimait aussi sa 2e femme. C'était une personne très prévenante, toujours patiente, et elle était la confidente du commerçant. Chaque fois qu'il rencontrait des problèmes, il se tournait vers elle et elle l'aidait toujours à s'en sortir. La 1ère femme était une partenaire très loyale. Elle avait aussi bien contribué à maintenir ses richesses qu'à prendre grand soin de sa maison. Pourtant, le commerçant ne l'aimait pas beaucoup. Il ne lui prêtait que peu d'attention. Un jour, le commerçant tomba malade. Il avait le pressentiment qu'il allait mourir bientôt. Il pensa alors à sa vie et se disait « Maintenant j'ai 4 femmes, mais quand je mourrai, je serai seul. Quel solitaire je serai !» Il demanda donc à sa 4e femme « Je t'aime le plus, je t'ai doté des plus fins habits et pris grand soin de toi. Maintenant que je meurs, voudras-tu me suivre pour me tenir compagnie ?»« Nulle part, » répondit la 4e femme, et elle s'en alla. Le triste commerçant demanda alors à sa 3e femme, « Je t'ai beaucoup aimé toute ma vie. Maintenant que je meurs, voudras-tu me suivre et me tenir compagnie ?»« Non, » répondit la 3e femme, « la vie est si belle. » Je me remarierai quand tu mourras. » Alors il demanda à sa 2e femme, « Je me suis toujours tourné vers toi et tu m'as toujours aidé. Maintenant j'ai à nouveau besoin de ton aide. Quand je mourrai, est-ce que tu me suivras pour me tenir compagnie ?»« Je suis désolé, je ne peux pas t'aider, » répondit la 2e femme. « Dans le meilleur des cas, je ne peux que t'accompagner vers la tombe. » La réponse tomba comme un coup de tonnerre pour le commerçant et il eut le cœur fendu. Alors appela une voix, « J'irai avec toi, je te suivrai là où tu iras. » Le commerçant leva les yeux, c'était sa 1ère femme. Elle était si maigre comme si elle souffrait de malnutrition. Très touché, le commerçant lui dit, « J'aurais dû prendre beaucoup mieux soin de toi pendant que je pouvais. » Morale de cette histoire, nous avons tous, symboliquement, 4 femmes dans notre vie. La 4e femme, c'est notre apparence physique. Nous nous donnons tant de mal pour prendre soin d'elle, mais elle n'est que passagère. Elle ne nous suivra pas au-delà de la mort. Notre 3e femme, c'est nos biens et nos richesses. Quand nous mourrons, ils iront à d'autres. La 2e femme, c'est notre famille et nos amis. Ils sont proches de nous, mais c'est pour un temps. La 1ère femme, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir. C'est notre relation avec Dieu, souvent négligée, oubliée dans notre quête de biens matériels et de plaisirs. C'est pourtant la chose la plus importante, et même la seule, qui nous suivra là où nous irons. Alors nos attaches terrestres, je posais la question, quand tout s'en va, qu'est-ce qui nous reste? Bien, il nous reste l'œuvre de Dieu, en nous et l'œuvre de Dieu qu'il aura faite à travers nous. Nos attaches terrestres sont-elles bonnes? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des bonnes. Hein. Aimer, bien sûr, son conjoint, ses enfants, ses amis, c'est une forme d'attache qui est bonne. Mais est-ce que toutes nos attaches terrestres sont bonnes? Chacun peut y répondre pour lui-même. En tout cas, ce qui va nous rester au final, c'est notre statut devant Dieu. Ce qui compte, c'est l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Même dans les situations les plus difficiles, Dieu a un plan pour nous et Dieu accomplit son plan à travers nous aussi. Je lis par exemple là, dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, « Quant à vous, faites attention à vous-même, on vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Même les situations de persécution, nous dit ce passage, sont utiles à l'accomplissement du plan de Dieu, car elles sont des occasions, mystérieusement, des occasions fortes de témoignage. Il faut avant tout, dit le texte, que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Ce petit mot « il faut » n'est pas à comprendre comme une fatalité, mais comme le plan de Dieu qui s'accomplit par l'annonce de l'Évangile. Il faut avant tout, cela indique qu'il s'agit d'une priorité, pour Dieu. Le plus important est que toutes les nations entendent le message de l'Évangile et que toute personne ait l'occasion de se tourner vers Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui fera cette œuvre à travers nous. On n'a même pas besoin de préparer à l'avance ce qu'on dira, mais l'Esprit Saint nous donnera les paroles. Si cela est valable dans un contexte de persécution, cela doit aussi être valable dans notre vie de tous les jours. Laissez l'Esprit Saint faire son œuvre à travers nous. C'est lui qui nous rendra capables d'apporter un bon témoignage, même dans le cadre de difficultés intense. Lorsqu'on perd tout, c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous et l'œuvre qu'il fait en nous et à travers nous qui restera. Même si le temple est détruit, qu'il ne reste plus une pierre sur une pierre, l'Esprit Saint ne nous abandonnera pas. Il est fidèle et voilà ce qui compte, c'est notre relation avec Dieu. Alors que restera-t-il de notre vie ? C'est Dieu qui nous a choisis, qui nous justifie, qui nous sanctifie et qui nous fait persévérer jusqu'à la fin. Il faut donc nous accrocher à ces vérités dans les tempêtes de nos vies, parce que ces vérités sont fiables, stables, inébranlables. Et si on s'accroche à notre vie, peut-être notre vie elle-même ne sera pas assez forte pour que nous puissions nous y accrocher. Parce que des temps de détresse peuvent venir. Des temps de détresse seront là. Et peut-être même qu'ils nous surprendront. Les versets qui sont là nous disent qu'il y aura un effet de surprise. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas à l'intérieur de sa maison pour emporter quelque bien qui s'y trouve. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Un jour, c'est vrai, Dieu mettra un point final à l'histoire de l'humanité déchue, mais pas à l'histoire de l'humanité tout court, puisqu'après, il y a une histoire encore bien plus glorieuse qui va commencer. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, il n'y aura plus d'injustice, plus de souffrance, plus jamais on ne verra de tels maux. Le texte dit « Ce seront des jours de détresse comme on n'en a pas connu depuis que Dieu a créé le monde et comme jamais plus on en verra de semblables. » Alors, soyons tout simplement dans l'attente de ce jour. Vivons cette journée et puis les suivantes en nous y préparant, en nous préparant à cette éternité que Dieu lui prépare de façon fidèle. Mais est-ce que nous y préparons ? Prions également qu'avec sagesse nous puissions nous préoccuper de ce qui compte, aux yeux de Dieu, de ce qui va rester pour l'éternité, de notre relation avec celui qui nous a choisis par grâce de notre relation, avec l'Esprit. Tenons-nous prêts. Amen.